Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le Nyonwintio, un territoire non cédé aussi appelé Québec, avec Mathilde Harvey-Morin à la console, aux multimédias, aux plateformes, aux communications. Bonsoir Mathilde!
Salut Christelle!
Très heureuse d'être avec toi ce soir en studio.
Moi aussi.
Dis-moi, est-ce que tu peux nous résumer les propos, les sujets prévus pour l'émission de ce soir?
Oui, bien sûr. Bien, théoriquement, c'est un peu le sujet. On a vraiment une soirée très thématique sur un événement qui s'est passé. Dans le fond, tu commences la soirée en nous partageant une entrevue que tu as réalisée vendredi dernier avec Lucille Olympe-Haute, une artiste, chercheur, auteur qui était de passage à la Chambre Blanche ce week-end dernier pour offrir une classe de maître.
Oui.
Et on continue cette soirée avec un deuxième segment qui est un retour sur la classe de maître intitulé « Célébrer le sacré dans le trivial » à propos d'alimentation, de fermentation, d'espèces compagnes et de biomatériaux. Et on a aussi un invité pour discuter aussi de cet événement-là, Ézéchiel Nadeau, qui est ami artiste visuel et qui était parmi les participants.
Exactement, on a passé la fin de semaine ensemble, on va pouvoir vous partager les apprentissages et bien d'autres choses qu'on a expérimenté ensemble grâce à la rencontre avec Lucille Olympe-Haute. Pour la sélection audio de ce soir, Simon Roy, notre fidèle mélomane ici à CKRL, nous a proposé de faire une découverte. Mathilde, veux-tu nous expliquer de quoi il s'agit?
Oui, bien sûr, donc c'est le groupe Fievel is Cloak, Glock. Une collaboration de Brooklyn entre le multi-instrumentaliste Zach Philippe et la chanteuse Ma Clément. On écoute ce soir l'album Flaming Sword qui est sorti en 2022. C'est une série jazz expérimentale, fusion et un peu des petites courtes pièces.
Okay.
C'est lourd mais pas étouffant, précis mais pas rigide comme on décrit. Donc on commence la soirée avec la chanson Save the Phenomenon.
Phenomenon? Phenomenon. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, Christelle Tremblay au micro, accompagnée par Mathilde Harvey-Morin et Ézéchiel Nadeau. On est ensemble pour parler de la classe de maître qui a été offerte par Lucille Olympe-Haute à la Chambre Blanche, par l'invitation du directeur de la Chambre Blanche, François Vallée. Et en prévision de cette classe de maître, j'ai d'abord rencontré Lucille à la maison. On a partager un thé de verveine bleue très, très amer ensemble et on a fait une belle entrevue que je souhaite vous partager. Donc, je vous fais jouer le premier extrait de cette entrevue où je demande à Lucille d'abord de se présenter et de nous présenter sa démarche. On écoute ça. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Est-ce que tu serais à l'aise de te présenter peut-être de manière un peu biographique pour introduire ta démarche, s'il te plaît?
Je m'appelle Lucille Olympe-Haute, c'est mon vrai prénom. Je suis artiste, enseignante et chercheuse. Artiste, je vais en reparler. Enseignante, j'enseigne le design à l'université de Nîmes, dans le sud de la France, où la météo est très clémente. Il fait beaucoup trop chaud l'été, mais pendant 8 mois dans l'année, on est très heureux là-bas. Je suis chercheuse associée à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Et là, ça fait un petit moment que je traîne mes guêtres à l'ENSAD et c'est un endroit qui est important pour moi et qui a beaucoup structuré ma recherche aussi. Et je suis passée par l'université plutôt, à Saint-Étienne, vers Lyon, dans le centre de la France, quoi. Je suis rentrée aux Arts Déco pendant mon doctorat, donc j'étais déjà à l'université en fait. Et j'ai fait un doctorat en art plastique, en recherche-création. À l'époque, je travaillais sur les avatars. Ça m'intéressait beaucoup de réfléchir à nos identités plurielles et à réfléchir à comment on pouvait être engagé dans des devenirs cyborgs sans être dans des implants avec une présence intrusive de l'électronique dans le corps biologique organique. Et du coup, à réfléchir comment on était déjà des cyborgs quand on a des avatars sur Second Life ou des boîtes mail, en fait, ou des téléphones portables pour suivre Amber Case là-dessus. On est tous des cyborgs à partir du moment où on a des téléphones portables. J'aime bien ça comme définition. Et puis là, plus récemment, je travaille plus sur des questions plus en lien avec le vivant et avec les vivants invisibles qui sont à l'intérieur de nous, sur nous, avec nos communautés de bactéries et de levures. Nous sommes interdépendants. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis dans une position à la fois avec une grande responsabilité à l'échelle de l'espèce à laquelle j'appartiens, qui est devenue la force géologique principale de la planète, et puis une grande humilité en considérant que moi-même, je suis le résultat d'un mélange d'un tas de trucs, et que parfois, si j'ai des sauts d'humeur ou que je me sens en peine ou qu'au contraire, je suis particulièrement joyeuse, c'est vraisemblablement parce que les communautés de vivants à l'intérieur de moi sont tristes ou malheureuses dans leur être de vie. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je me positionne en ce moment.
Waouh, ben, c'est beaucoup de choses à déplier. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder chacune des propositions que tu as semées en te présentant. Commençons d'abord avec le titre de la conférence et de l'atelier que tu es venue offrir ici à la Chambre Blanche à Québec.
Oui, donc je suis ici à Québec à l'invitation de la Chambre Blanche parce que j'ai été sollicitée il y a 2 ans par François Vallée pour contribuer à la revue. Et c'était sur la question du soin, du care, et j'ai proposé de reprendre un texte que j'avais écrit pour une performance, un rituel performance, qui était un rituel pour 201 pommes de terre. Et donc j'ai repris ce texte pour la revue, et ce rituel avait pour objectif de, on va dire, c'était un peu un rituel de deuil pour moi. C'était le moment où le village familial, enfin le village dans lequel j'ai grandi, ma famille était en train de le quitter pour vendre la maison qui était devenue trop grande pour mes parents vieillissants et qui voulaient quelque chose de plus petit et de plus proche de ma sœur, la fameuse Mélusine dont j'ai parlé tout à l'heure. Vendre la maison familiale, et du coup pour moi c'était aussi un arrachement de plus avoir mon ancrage là dans cette ancienne ferme dans laquelle j'avais grandi, où je connaissais les coins où il y a les orties qui poussent et puis les coins où il y a au contraire cette menthe là et puis là non, la menthe elle pousse pas, etc. Enfin, un truc très ancré, très terrien. Et dans mon village il y avait une fête de village, la fête de la patate. Donc vraiment la fête de village, tout ce qu'il y a de plus, avec un bal, avec des repas, avec un feu d'artifice.
Vraiment la campagne.
Ouais,
dans mon village. Ça fait écho à plein de gens en fait ici qui viennent de milieux plus ruraux.
Ben, mon village c'était 500 habitants et 600 vaches quand j'étais petite. Depuis ça s'est renversé, je crois qu'il y a 1 000 000 d'habitants maintenant et qu'il y a au moins une ferme qui s'est arrêtée. Il n'y a pas eu de repreneur au départ en retraite de l'exploitant, mais voilà, c'était... contexte très très rural, ouais. Puis en France, on a vraiment des tout petits villages aussi. Et bon, donc du coup, on quitte le village et moi je voulais un peu me retourner sur quelque chose que j'avais plutôt fui en allant justement faire mes études en ville. Cet ancrage culturel rural à travers du coup cette fête de village en particulier. Et cette fête, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'à l'année, c'est aussi un conservatoire vivant de tout un tas de variétés de pommes de terre.
Ah ouais.
Et donc, on a fait le compte avec ma mère, qui du coup a été la trésorière de l'association pendant plusieurs années. On a fait le compte, parce que c'était elle qui tenait le fichier Excel dans lequel il y avait les variétés. Et il y en avait eu plus de 240, je crois, des variétés qui ont été plantées et récoltées par l'asso. Il n'y a jamais eu les 200 en même temps. Mais voilà. Et donc du coup de là j'ai écrit ce rituel et finalement j'ai commencé à creuser. Ok, la patate, je savais que c'était pas européen de départ, mais ça vient d'où? Et donc du coup là, ben, toute la boîte de Pandore du colonialisme, de comment les Espagnols vont réussir à survivre en territoire inconnu en allant bouffer les pommes de terre qui étaient dans des silos mis en place par les autochtones, comment la pomme de terre revient arrive en Europe et n'est pas acceptée parce qu'elle est sous la terre et que du coup dans un contexte culturel catholique, ce qui est sous la terre c'est du côté du diable, donc c'est mauvais. Bref, du coup je fais ce récit là et la forme que je choisis pour le restituer, le montrer au public, le partager au public, c'est aussi du coup à partir de ces réelles pommes de terre cultivées par l'association Pas et Tate du village de Lomotier. Et donc du coup j'arrive avec les pommes de terre et on va les mettre à cuire et le temps de cuisson va être scandé par la narration, par le récit, et à la fin on les mange.
Oui, le rituel c'est pas une forme nouvelle, c'est l'histoire de notre humanité et souvent lié à nos besoins les plus primaires, la nourriture, le sommeil, l'accueil des naissances et des morts.
Clairement. Et du coup, c'est c'est de ça dont j'ai aussi envie de parler, ou ce que j'ai envie de partager là pendant la classe de maître. Moi, j'arrive avec un certain nombre de choses que je connais un peu, mais il y a plein de choses que je connais pas. Et puis, je sais qu'il y a des endroits sur lesquels je suis aussi pleine d'ignorance, surtout en étant ici au Canada et au Québec, avec justement cette question des savoirs et des pratiques autochtones, que ben, du coup en Europe on n'a pas exactement la même question, c'est-à-dire que l'Europe a été colonisateur et a bénéficié de la colonisation, mais en ancrage local, c'est pas sur nos terres que ça s'est passé. Et puis ben, donc du coup voilà, c'est des choses qui sont pas avec lesquelles je suis pas particulièrement à l'aise, c'est pas mon terrain d'expertise du tout. Donc moi le mot rituel, je sais que je m'inscris dans deux traditions. Donc il y a la tradition reclaiming qui est arrivée en Europe et en France en particulier suite à la traduction en français de l'ouvrage de Starhawk. Ça c'est en 2018, et du coup il y a tout un tas de jeunes sorcières qui ont commencé à vouloir se réunir en vrai pour essayer de faire vivre cette chose-là, de se dire de chercher un ancrage spirituel ou des pratiques collectives spirituelles, mais qui ne soient pas associées à une religion.
Oui.
Et donc ça c'était voilà avant Covid, et donc j'ai fait un peu partie de cette aventure là et c'était pas du tout présent en France à ce moment là il y avait des stages reclaiming en Angleterre, en Espagne, et en France il n'y en avait pas encore. Donc ça c'était déjà une chose intéressante à vivre, à partager et à tester. Et puis l'autre ancrage que j'ai, bah, lui il est plus universitaire, c'est que j'ai eu la chance de suivre le séminaire d'un anthropologue qui s'appelle Michael Haussmann, qui est un Américain, mais qui vit en France depuis des années, qui travaille à la haute école pratique, non, l'école pratique des hautes études, qui, du coup, c'est un anthropologue qui a travaillé sur le rituel dans une partie, enfin, une approche structuraliste, en fait, du rituel, des trucs autour du truc, c'est quoi comment c'est structuré. Et il a notamment étudié des corpus de rituels Wicca, de la Wicca, donc du coup c'était assez intéressant les articulations entre les choses symboliques et les choses matérielles, et comment des choses matérielles sont là pour rendre présent des choses symboliques. Et ça c'est des mécaniques qui sont hyper intéressantes quand on veut construire ses propres rituels, quand on sait ce qu'on a envie de faire comme action dans le monde, et en manipulant des choses matérielles et physiques, de transformer des choses sur le plan spirituel et symbolique. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire ce week-end. Mais j'arrive avec voilà, une petite boîte à outils, et j'imagine que les personnes qui seront autour de la table auront leur propre boîte à outils, et j'espère qu'on va pouvoir mettre tout ça en partage.
On écoutait Lucille Olympe-Haute en conversation avec moi vendredi dernier, alors qu'elle se préparait à offrir une classe de maître à la Chambre Blanche. On va en pause publicitaire, non, on va en pause musicale, pardon. Et puis au retour de la pause, on poursuit l'entretien avec Lucille Olympe-Haute. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro, accompagnée par Mathilde Harvey-Morin et Ézéchiel Nadeau. On a un seul sujet ce soir, mais un sujet riche et dense, c'est-à-dire la classe de maître de l'artiste Lucille Olympe-Haute qui a été offerte à la Chambre Blanche le week-end dernier. On écoutait en premier segment d'émission la première partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec Lucille en prévision de la classe de maître vendredi dernier. Et j'aimerais vous partager le deuxième segment de l'entrevue avec Lucille, où celle-ci aborde un peu plus les écrits, les publications qu'elle a fait, notamment le Manifeste des cybersorcières, qui est disponible online directement sur son site lucilleolympehaute.org. On écoute l'extrait de notre entrevue. Pourrais-tu nous dire un peu la forme manifeste que tu as choisie? En fait, elle sait pourquoi tu as fait ce choix-là de publier un manifeste des cybersorcières, de l'écrire sous cette forme-là. Je ne vais pas y mettre mes mots, j'aimerais bien t'entendre.
Alors effectivement, aujourd'hui, je travaille avec le kombucha et avant ça avec la pomme de terre. Mais avant ça, donc je l'ai mentionné en présentant, j'avais travaillé sur cette notion de cyborg. Et j'ai donc écrit, oui, en 2019, le Manifeste des cybersorcières, et c'était en fait une tentative de mettre en mots une invitation qui s'adressait en fait à plusieurs cercles autour de moi, mais auxquels j'appartenais. C'est-à-dire des amis ES, qui se positionnent, de genre différent, certaines vraiment femmes et puis d'autres pas forcément, qui se retrouvaient ou qui se reconnaissaient dans le terme de sorcière. Et on a commencé, en en discutant avec elle, il y a celle pour qui ça va vraiment être, oui, moi c'est la sorcière romantique du conte de petite fille où je me reconnais là-dedans. Et puis il y en a une autre où là c'est plus une question d'activisme queer transféministe, où là carrément la sorcière c'est pas du tout forcément un être de genre féminin, c'est beaucoup plus trouble que ça. Et puis il y en a une autre où pour qui il y avait quelque chose justement en lien à l'avatar, avec une présence un peu hybride, une présence un peu trouble, pas facilement circonscriptible. Et donc je me rendais compte qu'en discutant avec chacune avait sa définition de sorcière, et je voyais pour moi des échos, pour mon cas, et du coup j'ai essayé de mettre en mots ça, et c'est devenu un manifeste, parce que finalement c'est comme une espèce d'invitation à se réunir autour de questionnements communs. Donc le manifeste des cybersorcières, il a pour objectif de penser ensemble des questions de spiritualité, des questions autour des technologies et des questions politiques. Mais politique, je le pense dans un sens vraiment assez large, au-delà de l'anthropocentrisme, mais plutôt avec les autres vivants. Un peu dans, en écho avec le travail de la philosophe Corinne Pelluchon, qui est en train de proposer une nouvelle éthique, autour de la notion de nourriture aussi d'ailleurs, une nouvelle éthique où on se penserait, une éthique qui englobe aussi les autres vivants et pas uniquement une éthique qui concerne les humains entre eux.
Je ne connais pas le travail de Madame Pelluchon, mais je pensais que tu allais citer Donna Haraway.
Oui, aussi, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais c'est juste que Donna Haraway, on la cite tout le temps. Et du coup, comme elle est forcément cybersorcière, il y a le cyborg, donc il y a Donna Haraway. Et forcément...
Il y a le vivant, au-delà de l'espèce humaine, c'est Donna Haraway aussi qui nous a pistés.
Les espèces compagnes. Oui. Exactement, tout à fait. Mais elle sera présente pendant les deux jours de la classe de maître.
Mais vivement que tu nous introduises aussi à d'autres philosophes, chercheurs ou travailleurs qui ne sont pas directement liés à l'univers des arts visuels et pour lesquels on a besoin de tendre l'oreille un peu plus loin pour venir alimenter notre travail. C'est d'ailleurs ma dernière question. En fait, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans le champ des arts visuels avec ce parcours-là, super académique, vraiment du domaine de la théorie, de la pensée critique, de la recherche? Comment tu as fait pour trouver ta place au sein des arts visuels?
Moi, je vais dire que j'ai d'abord des intuitions plastiques avant d'avoir de la pensée théorique. Je me ressens vraiment comme ça. Je me définirais d'abord par des choses sensorielles et sensibles, la mise en mots est seconde. Mais même pour mon doctorat, ça s'est passé comme ça. Et j'ai eu la chance de bénéficier d'un encadrement qui m'a encouragée dans ce sens-là, qui allait vraiment à l'encontre de ce truc de d'abord il faut penser et ensuite on fait. Pas du tout. Mon directeur de thèse, Éric Van de Castel, il est à la retraite maintenant. Il était vraiment à penser que c'est d'abord des choses plastiques, des faits plastiques, et ensuite on va faire la mise en mots. Et donc moi je continue vraiment là-dessus. C'est d'abord une émotion esthétique, et ensuite viennent les mots. Alors bien sûr que, en fait, s'il y a émotion, c'est bien parce que je suis structurée d'une certaine manière, c'est bien parce que je suis structurée par du langage, et qu'en fait je ressentirais pas la même chose face même à une peinture ou une fleur si j'avais pas baigné dans un bain culturel particulier qui fait que je suis ce que je suis, évidemment. Mais j'aime quand même mieux penser le truc en le renversant, peut-être un petit peu caricaturalement, se dire que non, c'est pas d'abord on pense les choses, c'est d'abord un projet, et ensuite on l'exécute et on le met en matière. Non, pas du tout. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Donc là-dessus, en fait, je suis d'abord peintre avant d'être théoricienne, si tant est que je sois théoricienne, et c'est pas sûr, j'en sais rien.
Donc t'as une pratique plastique.
Oui, clairement.
Que tu maintiens au-delà de la performance?
Tout à fait. Là, en ce moment, donc, ça fait 3 ans que je travaille avec du kombucha. Donc, je fais des talismans cosmiques en cellulose de kombucha. Ça aussi, c'est nourri par mon positionnement du coup en tant qu'enseignante en design. Donc, du coup, en arrivant autour de la question des biomatériaux par le design, de se dire, en fait, on a des objets de notre quotidien qui sont matériels, qui font nos vêtements, qui font notre alimentation, qui font les artefacts qu'on utilise au quotidien, une tasse, un verre, un portefeuille. Et la matérialité de ces objets, la matérialité de ce qu'on mange, tout ça, en fait, ça participe quand même du même monde et le même que le nôtre. Et du coup, si on prend du langage qui vient du design et du monde industriel, on va avoir cette notion de coproduit. Quand je bois du kombucha, que j'achète dans commercial, ce kombucha, il a eu comme coproduit du thé infusé, que tu vas composter, et puis aussi cette couche de cellulose-là. Et cette couche de cellulose, elle a des particularités plus intéressantes par rapport à les celluloses végétales. Elle a une élasticité, une souplesse qui fait qu'elle intéresse les designers pour produire une espèce de cuir, c'est un abus de langage de l'appeler comme ça, mais un cuir non animal, un cuir bactérien. Et donc du coup, en design textile, c'est une matière qui est intéressante pour ça. C'est encore très expérimental, ces choses-là, mais il y a une designer, Suzanne Lee, qui a fait c'est en 2015, donc ça commence à dater, qui a fait une série de vestes en cuir de cellulose du kombucha qui reste vraiment... elle n'a pas été dépassée, quoi, par rapport à l'aboutissement de son travail. Et du coup, bon, le design, c'est la partie un peu... je produise des objets, potentiellement de la matière, enfin, c'est quand même dans un modèle commercial marchand. Moi, j'aime quand même vraiment bien réimprégner tout ça de spiritualité. Et donc, quand je fais mes talismans cosmiques, en fait, je travaille avec un producteur de kombucha à Paris, qui s'appelle Vivant Kombucha. J'aime bien leur faire la publicité parce qu'ils sont très généreux avec moi. Ils me donnent leurs déchets. Ils me donnent la cellulose de kombucha qui, pour eux, du coup, est sans intérêt, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est de mettre en bouteille la délicieuse boisson qu'ils produisent. Et donc, moi, ce déchet, je vais le transformer en art. Je vais le faire sécher sur verre, ce kombucha. Je vais faire tout un travail, en fait, de plisser, de froisser, et c'est presque de la peinture, mais avec cette matière là qui va rester collée au verre et qui va rester, on peut pas la séparer du verre ensuite, quoi, il est trop fragile pour ça. Donc du coup, vraiment, je reviens là dans une pratique vraiment picturale, plastique, quoi. Et voilà, et en ce moment, j'ai une expo qui est en train de se terminer en Allemagne, là, dans un centre d'art juste à côté d'Hanovre, qui est exactement avec cette population de vivants et de non-vivants de kombucha. Il y a du kombucha vivant aussi dans l'expo.
On va aller voir les images.
Tout à fait.
Je te remercie beaucoup, Lucille. C'était la fin de l'entretien avec Lucille Olympe-Haute. On part en pause publicitaire cette fois et aussi musicale. Et au retour de la pause, je m'entretiens avec Ézéchiel Nadeau au sujet de la classe de maître qu'on a vécue ensemble, qui s'appelait « Célébrer le sacré dans le trivial ». À tout de suite. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro, accompagnée par Mathilde Harvey-Morin à la console, au multimédia, aux plateformes, au DJ set, et puis Ézéchiel Nadeau, ami, artiste visuel.
Allô, allô, allô.
Allô, Ézéchiel. Je suis contente que tu aies accepté l'invitation de venir échanger avec moi, parce qu'on a participé, on a passé le week-end ensemble, on a participé à la classe de maître offerte par Lucille, Olympe-Haute et la Chambre Blanche. Tu as aimablement fait remarquer tout à l'heure, hors d'onde, que la classe était offerte littéralement, il s'agissait d'un workshop gratuit. On remercie la Chambre Blanche.
Merci!
Parce que c'est vraiment le fun de participer à ce genre de connaissances, d'offres, d'espaces, gratuitement.
Mm-hmm.
Ça change tout.
Absolument.
Alors, Ézéchiel, ma première question, ce serait de savoir, d'abord, comment tu t'es intéressé à ce workshop-là? Qu'est-ce qui t'a accroché dans le titre, dans la présentation de Lucille?
Mm-hmm. Je me suis intéressé à... j'ai comme une relation, disons, un petit peu secrète avec le rituel. Là. C'est quelque chose que je j'aborde pas tout le temps. En premier plan. Donc, quand j'ai vu ça passer, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion assez littéralement. Là. Je pense que c'était le matin, là, puis j'ai même pas checké si ça coûtait quelque chose. J'ai envoyé un courriel, là, puis let's go. T'sais. Puis, justement, les thématiques, là, c'était vraiment des trucs qui m'intéressaient. Justement, le rapport aussi à l'alimentaire. Moi qui essaie de maintenir un effort de décroissance aussi là, dans ma pratique en art visuel. Donc, c'était full important pour moi. Puis aussi la fermentation, quelque chose que je faisais un peu aussi là, sur à temps perdu. Donc, c'était tous des axes, en fait, qui m'intéressaient, mais qui n'étaient pas nécessairement reliés directement là, par, disons, une vocation d'artiste en art visuel, mais vraiment plus comme dans ma vie privée. Là. Fait que,
ouais.
Ouais.
Ça, c'est le premier étonnement, c'est-à-dire l'habileté avec lequel, conceptuellement, théoriquement, Lucile réussit à tisser un lien entre le vivant, vivre. Mm-hmm. On dit souvent, alors, c'est la vie, mais là, la vie organique, microbienne, bactérienne, pour Lucile, il n'y a pas de distinction. C'est mm-hmm. un matériau d'art, c'est ce qui nous fait, nous, donc, ce qui nous fait aussi artistes.
Mm-hmm.
Puis ça, cette agilité-là conceptuelle de rallier toutes les formes du vivant à l'artiste et à sa pratique, ça m'a vraiment étonnée.
Oui, moi aussi, justement, là... Je parlerais même justement d'alignement, là, t'sais, comme d'avoir tous ces axes-là de la vie là, qui se rejoignent, là, puis qu'on évolue là-dedans, effectivement. Là. Je trouve que c'est ça, là, la classe de maître que Lucile a donnée était vraiment intéressante pour ça. Puis aussi, il y avait comme une espèce d'ouverture à la discussion, c'était une discussion qui était très animée. On a parlé de beaucoup de choses. Puis des sujets finalement qui se recoupaient tous presque magiquement. C'était surprenant, effectivement. Là.
Dans les thèmes que la Chambre Blanche avait annoncé, tu as nommé alimentation, fermentation, elle avait parlé aussi, ils avaient beaucoup parlé de l'écriture, de la performance comme forme d'art, comme champ disciplinaire de l'art visuel et la création rituelle et la magie. Donc il y avait quand même des domaines plus classiques. Du champ des arts visuels, l'écriture et la performance, la composition. Et là, pour ce qui est de la création de rituels et la performance de la magie, on est ailleurs, c'est audacieux. Est-ce que tu sentais de la résistance ou de l'attirance vers cette proposition-là?
Ah, moi, j'ai été très, très, très séduit. Là. Je me suis senti très privilégié de pouvoir... non seulement échanger finalement des connaissances que j'avais accumulées depuis... presque une décennie, en fait, là, quand j'y pense. Là. Puis aussi de voir comment les autres se rapportaient à ça, puis aussi tous les questionnements là, très actuels, justement, là, sur l'appropriation culturelle, en fait, là, par rapport à la magie. Puis comment est-ce qu'on évolue là-dedans, puis tout ça. Fait que moi, j'ai été justement très, très séduit là, par la proposition. Puis justement, d'ouvrir un espace là, pour aussi échanger, parce que pour moi, c'est une pratique qui se fait beaucoup dans l'intime, justement. Puis, j'en parle pas beaucoup, fait c'était le fun de pouvoir discuter là, avec les autres.
Oui, et d'aborder aussi nos démarches artistiques de façon... de mettre sur la table des questions personnelles respectives à chacun des participants, chacune des participants, participantes. Toutefois, de les aborder sous l'angle de la magie, de la forme rituelique, de la préparation et de l'intention. Moi, je te dirais qu'un des points marquants de nos échanges de la première journée de la classe de maître, ça a été la discussion qu'on a eue sur l'intention et la nécessité d'avoir une intention très franche, très honnête, en tout cas avec nous-mêmes, avant de s'adresser à ou d'avoir un désir de sacraliser, de rendre sacré et de transformer des énergies en forme ou de la forme en énergie, comme Lucile nous partageait sa définition à elle du rituel. Et pour moi, ça a été marquant parce que ça me permet de réfléchir peut-être un peu plus à voix haute, ma posture par rapport à l'art performance. Je ne sais pas pour toi, qu'est-ce que tu gardes de précieux de ces deux jours de classe de maître?
Ah, c'est ce que je garde de précieux. Ben, déjà, la question de l'intention, là, on en a discuté, puis justement, là, j'avais comme jamais réalisé ça, puisque, bref, mon parcours de vie a fait ça, là, mais justement, que on est les personnes qui s'investissent dans un processus en art visuel c'est des personnes à qui on demande souvent c'est quoi leurs intentions, tu sais, pourquoi est-ce que tu fais ça, étant donné que on voit ça comme quelque chose qui n'est pas productif, et on me demande justement où t'enlignes tes skis quand tu fais ça, tu sais. Puis cette communication-là est parfois très difficile, justement, puisqu'on on tâtonne, on explore, puis des fois, on n'a même pas les mots pour expliquer ça. Donc, de s'asseoir, justement, puis dans une forme rituelique, puis de se dire qu'est-ce que j'essaie d'apporter avec ça, tu sais. Là, qui est comme vraiment très dirigé, qui est beaucoup plus dirigé, disons, que personnellement, quand je suis dans une approche plus de l'errance ou de la déambulation, où est-ce que je me dis, là, je devais trouver à un moment donné, ben là, il y a comme une espèce de volonté de prendre action dans le réel directement. Puis pour moi, ça passe beaucoup là, dans des approches de care, des approches de soins, justement, de qu'est-ce qu'on a besoin maintenant, tu sais, dans l'intention. Puis justement, dans la classe de maître, on a eu l'opportunité, chacun, chacune, de présenter, en fait, là, un petit rituel qu'on allait créer, en fait, en fonction d'un aliment qui nous interpellait. Donc, chacun et chacune ont été invités à amener un aliment, puis à faire une recherche un peu, là, comme Lucille parle dans son entrevue, elle avec la patate, nous avec nos aliments, puis de vraiment contextualiser que cet aliment-là qu'on amène, en fait, a toute une histoire, puis il y a une quantité infinie de mains qui ont touché ça, autant des humains que des non-vivants, puis des non-humains aussi, quand on parle justement du bactérien. Donc, c'est très... Ça donne beaucoup d'humilité, en fait, là, de se sentir à quel point on est dépendant de tout l'écosystème, de toute cette toile, en fait, là, qui nous relie là, entre les vivants, puis le minéral, le non-vivant, les bactéries, tout ça, donc... Je me sens très choyé, justement, encore une fois de plus, là, d'avoir eu accès à ça gratuitement aussi. Là. C'était vraiment super.
Pour ne pas dire nourrissant.
Nourrissant, bien sûr, oui.
Bon. Une des autres questions qui m'habite à la suite de la classe de maître, c'est comment ça va se révéler dans le travail performatif que toi, tu poursuis comme artiste.
Personnellement, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à faire de la performance, j'ai reçu une critique qui m'avait beaucoup marqué, justement, puis on m'avait dit quelque chose comme « on dirait que tu veux brouiller les pistes, que tu veux pas être compris, que tu fais exprès de rendre ça complexe pour que les gens n'accèdent pas à ton intention. » Puis je trouve que dans développant... Puis en continuant de développer, puis en associant cette pratique rituelle-là dans laquelle, dans le cadre de mon rituel, j'étais très, très clair sur mes intentions. D'habitude, j'évite de parler dans une performance, ce qui est quelque chose de très difficile pour moi. J'avais comme fait le pacte avec moi-même que je faisais de la performance pour me taire, pour arrêter de le blabla, puis juste faire des choses. Mais là, de rallier justement cette honnêteté dans l'intention avec les publics, puis de les impliquer, pas juste à titre de... Comment dire? Je cherche le mot. J'en trouve pas un qui est efficace, mais je dirais vraiment à titre de participant qui gagne quelque chose aussi à être là, qui est pas un participant anonyme. Mm. Donc, ça me questionne beaucoup, justement, là, sur le rapport au performatif puis au rituel dans la question du don. Qu'est-ce qu'on donne déjà quand on est en présence avec les autres? Puis comment ces gens-là... moi, comme performeur, comment est-ce que je peux leur donner le plus possible pour qu'ils repartent avec quelque chose en bout de ligne?
C'est très, très beau, ça, cette piste-là d'évolution comme artiste, de considérer notre présence au monde et notre expression, le fruit de nos expressions, comme des dons qui contribuent de façon bienveillante à la communauté, aux soins qu'on a les uns pour les autres, qu'on contribue au rêve, en fait, d'un devenir.
Mais oui.
Pour terminer cet entretien avec toi, Ézéchiel, j'ai envie que, dans la tradition de ce que Lucille nous a appris, qu'on remercie, qu'on fasse des remerciements.
Ah oui!
Aurais-tu quelque chose ou quelqu'un, quelqu'une à remercier?
Ah oui, absolument. Mon rituel, c'est... articulé autour des communautés que j'habite, puis les communautés qui me sont nourricières, que je suis très reconnaissant, puis je veux faire un grand, disons-le, vous n'allez pas le voir parce que je suis à la radio, mais je fais un grand cœur, un énorme cœur à tous mes amis qui sont présents là, dans ma vie, puis qui me nourrissent, qui me vêtissent, qui prennent soin de moi. Puis je souhaite, en fait, là, prendre soin avec autant d'engagement à ces communautés-là. Puis aussi, aussi remercier les communautés bactériennes qui font du kombucha.
Ah, c'est des beaux remerciements. Parce que là, je pense que tu as une pratique matérielle de cellulose de kombucha qui s'en vient.
Absolument.
Tu sais, t'as vraiment inspiré.
Oui, je vais y envoyer des photos.
Bon, ben mes remerciements, moi, vont à Mathilde Harvey-Morin pour son appui. Puis cette aventure extraordinaire de radio qu'on vit ensemble. Merci Mathilde.
Merci,
et
Mathilde.
Puis aux ondes qu'occupent ces KRL et qui nous permettent de voyager dans l'invisible jusqu'aux auditeurs. On prend une petite pause musicale. Je te remercie beaucoup Ézéchiel pour
Merci,
ta présence
Christelle.
Avec nous. Et puis au retour de la pause musicale, on va faire un agenda entièrement dédié à Manif d'art parce que tout ce qui s'en vient va démarrer cette semaine et on veut se mettre un peu d'ordre dans les idées par rapport à ça. Rebienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, hebdomadaire d'actualité artistique, propulsé sur les ondes de CKRL 89.1, Christelle Tremblay au micro avec Mathilde Harvey-Morin, à la console et aux médias, et au DJ set. On écoutait en fait une piste qui s'intitulait « Less to be » de l'artiste Feverless Gloak, n'est-ce pas? OK. Alors, on voulait vous parler de Manif d'art parce que la Grande Biennale de Québec commence cette semaine. Il y aura beaucoup de vernissages et on veut les mettre en contexte pour que vous puissiez amorcer le parcours de découverte des grandes expositions qui sont programmées dans cette édition de Manif qui est la 11e édition, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. 11e édition de la Manif d'art. La thématique est les forces du sommeil, cohabitation des vivants. On n'est jamais très loin de nos thèmes, hein? Tout est dans tout, comme disent les grands philosophes. La commissaire, en fait, de cette édition s'appelle Marie Muracciole. C'est une commissaire qui arrive de l'international et qui va faire la présentation, la visite de presse jeudi matin avec l'ensemble des organes de presse. Même Mathilde et moi avons été invités, donc si jamais on est disponible jeudi matin, on pourra faire le tour des expositions en primeur, peut-être avec certaines de nos chroniqueurs chroniqueuses et vous revenir avec de belles chroniques à ce sujet. L'exposition centrale de Manif regroupe beaucoup de nombreux artistes. Elle est divisée aussi en galeries, donc présente dans l'ensemble des centres d'artistes de Méduse et à l'extérieur de Méduse, que ce soit au lieu à la Chambre Blanche, ailleurs. Il y a des expos qui sont en train de finir de s'installer. Il y a aussi tout un volet jeunes commissaires qui s'installe dans les maisons de la culture. Donc, il y a 4 jeunes commissaires qui ont été sélectionnés par Manif d'art pour proposer commissarier des expositions. Donc, il y a Sévia Pellissier qui présente Delphine Egesbar, Isabelle Desroches et Frédéric Laliberté à la maison Amel Bruno. Il y a Sarah Tuong Ondo qui présente Florencia Cesare, Fanny H. Levy et Mai Bak, Mai Nguyen. Les 3 artistes seront présentés dans 3 bibliothèques différentes. Donc, il faut vraiment être game là, pour aller se promener un peu partout dans Québec. Mais il y aura des installations de ces 3 artistes-là qui ont été commissariés par Sarah Tuong Ondo. Ensuite, il y a Virginie Brunet-Asselin qui installe dans Materia les artistes Alissa Bilodeau, Linda Swanson, Sonia Robertson. Grande artiste inoue, là, basée à Mastéache, mais qui a longtemps travaillé à Québec, là, vraiment. En tout cas, moi, je suis très honorée de pouvoir voir une installation de Sonia Robertson. Jiwan Larouche et Amélie Proulx. Donc, vraiment, des artistes de Québec, une sélection un peu hybride dans Materia. Je suis très hâte de voir ce que Virginie Brunet-Asselin nous propose. Et finalement, il y a Noémie Fortin, qui présente dans une autre maison de la culture les artistes Angela Marsh, Anne-Marie Proulx, Maryse Goudreau, Richard Ibgui et Marie-Lou Lemens. Donc, ces 4 expositions-là seront vernies au cours de la semaine entre vendredi et samedi. Donc, les maisons de la culture et bibliothèques affichent les expositions déjà, mais on pourra les voir dans leur version prête à être présentée à partir de jeudi ou vendredi. Pour ce qui est de l'exposition centrale, elle sera ouverte au public samedi, à compter de samedi, et il y a une très longue liste d'artistes que je ne vais pas vous lire, mais ils sont en fait près d'une vingtaine, peut-être même plus d'une vingtaine, à être réunis dans l'exposition centrale. Il y a des parcours d'art public aussi qui sont offerts par manif d'art et j'aimerais attirer l'attention sur une œuvre d'art public qui est présentée par François Morelli. François Morelli est un artiste de la performance qui est d'origine québécoise, mais qui a passé la première partie de sa vie à New York et qui a travaillé avec le groupe Fluxus, donc une espèce de vieux de la vieille de la performance. François a vraiment incarné des grandes époques de la performance et est revenu au Québec, a travaillé sur le territoire, a travaillé à Alma, à Montréal, s'est installé à Montréal plus longtemps, a enseigné en art performance à Concordia. Et là, il est dans un cycle de reenactment. Et c'est très, très intéressant ce qui se passe autour de François présentement. Donc, au Musée d'art contemporain des Laurentides, cet automne, son fils Didier Morelli et lui ont fait un reenactment d'une performance sur le lac dans les Laurentides. Et tous les artefacts de la performance, ainsi qu'une captation sonore et vidéo, sont installés dans la collection du Musée des Laurentides. Et là, dans le cadre de Manif d'art, François réinstalle un lit superposé qui avait été installé sur un lac gelé. Il réinstalle ça, mais d'autres choses encore. Donc, il réinstalle une installation qu'il avait faite il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, et il réenacte en fait son geste, son installation, et il en ajoute encore. Donc, c'était seulement pour vous faire saliver que je souhaitais mettre en lumière certains aspects de la proposition de Manif d'art. Pour ce qui est des lieux à visiter, le parcours plein air, en fait, se déroule un peu à gauche, à droite. Là. Donc, pour l'installation de François Morelli dont je parlais, il s'agit du parc de l'artillerie. Je ne sais pas exactement où ça se trouve. Il y a Paul Cox qui s'installe à la Place d'Armes, ici à Québec. Et enfin, il y a un artiste qui investit le toit d'un building de condo sur Charest, au coin Langelier. Le toit du building Caméléon sera peint avec une peinture à l'eau et il y a une inscription sur le toit qui ne sera pas visible de la rue. Toutefois, on pourra la contempler à partir de la terrasse et qui sait, peut-être un jour à partir de Google View. Je ne sais trop comment faire pour contempler cette œuvre d'art. Mais voilà, je vous invite à aller sur le site de Manif d'art et à suivre les parcours suggérés. Il vous offre aussi la possibilité de faire des tours d'autobus pour pouvoir plus facilement prendre acte de tout ce qui est offert à voir et à consommer. On va sûrement revenir sur l'ensemble des expositions dans la prochaine semaine avec des chroniques et des retours, des feedbacks. Il y a encore le mois multi qui suit son cours, donc il y a des propositions aussi à suivre de ce côté-là. Moi, je serai prête à terminer cette édition de l'aérospatiale. On remercie Ézéchiel Lado de sa présence. On remercie aussi Lucille Olympe-Haute pour sa générosité, pour l'entrevue qu'elle m'a offert. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.